La revue de presse de Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, vous nous parlez d'un éléphant.
Oui, ou plus exactement, de la trompe de l'éléphant. Comment ça marche, une trompe d'éléphant? Certes, vous allez me dire qu'il y a des questions un peu plus urgentes dans l'actualité. N'empêche que cet étrange attribut pourrait bien changer nos vies futures. Vous allez comprendre en lisant ce papier passionnant dans le Figaro ce matin, signé Stéphanie Gardier, qui vous raconte la noble quête de chercheurs de Genève, partis en Afrique du Sud pour tenter de comprendre le fonctionnement de ce truc multifonction, énigme de la nature, qui permet aux éléphants de manger, respirer, sentir, toucher, communiquer. Cette trompe, capable à la fois de saisir une branche d'arbre ou une touche d'herbe avec une infinie délicatesse, comme de soulever des charges de plus de 250 kg sans la moindre articulation. Le secret, ce sont ces fibres musculaires, plusieurs couches de réseau ultra sensibles qui agissent en fonction des besoins. Et si les trompes d'éléphants passionnent tant les scientifiques, c'est aussi parce qu'elles inspirent l'univers de la robotique, oui, qui imagine des instruments sans structure rigide, mais à la gestuelle très fine. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que les chercheurs avouent qu'ils sont encore loin d'avoir tout compris. C'est donc dans le Figaro ce matin, et l'on se dit qu'on a tort de faire du mal aux éléphants. Ils sont peut-être l'avenir de l'homme. Bon, sauf que notre avenir, pour l'instant, il rime plutôt avec Omicron. La une de tous vos journaux ce matin, forcément après les annonces de Jean Castex hier soir, et avec le même titre, très souvent, ce nouveau tour de vis. À la une de l'Alsace, du Bien Public, de la Dépêche, de la République du Centre, même si certains préfèrent voir le verre à moitié plein, comme le Midi Libre et le Dauphiné, qui constatent que le réveillon, au moins, est épargné. Pas de couvre-feu, c'est déjà ça. La stratégie de la riposte graduée, résume les échos. Avant une rentrée bien incertaine, ajoute le Télégramme. Ça passe ou ça casse, Dixit Corse ce matin. Bref, comme un air de déjà-vu, soupire la Provence. Petit retour en arrière, ou plutôt retour en barrière, écrit Libération.
Jean-Philippe, après le loup hier, après les éléphants ce matin, vous nous parlez de vaches.
Beaucoup plus proche de nous, les vaches, et toujours dans Libé, qui nous emmène en Bretagne, première région laitière de France, où tout va de mal en pis. Pas assez d'argent et beaucoup trop de tourments. Exemple, dans cette ferme des Côtes d'Armor, elle était immense il n'y a pas si longtemps, fière de ses 210 hectares, 140 vaches, près d'1,5 million de litres de lait par an. Il fallait produire, grossir, comme une fuite en avant, jusqu'au jour où le corps et la tête ont dit stop. Fin de l'aventure familiale, celle qui se transmettait de génération en génération. Beaucoup trop forte, la charge mentale. Tous les producteurs ou presque le disent. Le même refrain, celui de la fin des quotas laitiers, la dérégulation du marché et la chute des prix. Alors oui, il y a un peu de honte, parfois, à se dire qu'on est pris au piège, à s'avouer vaincu, et à vouloir changer, se reconvertir dans les céréales ou la volaille. Pourquoi pas? C'est ce qu'a fait justement Sébastien, jeune agriculteur qui voulait juste vivre un peu pour lui et pour les siens. Il ne regrette pas, soulagé aujourd'hui, mais ce fut compliqué, difficile de voir partir ses vaches. Je suis sur l'exploitation depuis tout petit, mes parents, grands-parents ont toujours eu des animaux. C'est un lien sentimental, dit-il. Peut-être que les autres générations ont moins envie de se laisser faire. Trouver de la ressource, des raisons d'espérer, il y en a aussi dans ces tiny house, ces petites micro-maisons inspirées des États-Unis que l'on voit apparaître désormais à Lyon et Villeurbanne. Et les voici sur le site du Monde qui vous raconte cette idée de la métropole, accueillir des femmes seules avec leurs enfants dans ces espaces entre 15 et 20 mètres carrés, un toit sur la tête et la possibilité enfin de pouvoir s'endormir sans crainte, se sentir chez soi. C'est ce que vous dit Odette, qui n'en pouvait plus des foyers ou des hôtels où l'on n'est jamais tranquille, où l'on réfléchit trop. Ici, on s'inquiète un peu moins, les gamins jouent ensemble, de quoi souffler, être plus efficace, collectif, et construire des lendemains un chouïa plus serein. Une sérénité qui a déserté depuis bien longtemps les rues d'Alep en Syrie. C'est le journal Ouest France qui vous embarque en reportage dans ce coin du monde dont on a tant parlé et puis qu'on a oublié. Mais les habitants, eux, sont toujours là, 90% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Ici, il n'y a pas de tiny house, non, mais des ruines à perte de vue. Squelettes obsédants d'immeubles éventrés et jamais reconstruits, 13 millions de personnes déplacées, victimes des bombardements, 1,5 million de morts et des survivants qui n'ont plus d'âge, tant les regards sont creusés. Malgré les sanctions internationales, on croise encore quelques humanitaires qui font ce qu'ils peuvent. L'impression d'ouvrir de minuscules robinets au milieu du désert. Une habitante raconte qu'il y a longtemps, elle avait peint une grande fresque dans Alep, un dessin joyeux qui disait « paix sur la terre ». Oui, c'était il y a bien longtemps.
Et vous terminez, Jean-Philippe, avec une autre histoire de peinture.
De celle qui vous redonne un peu foi en la nature humaine. L'étrange réveillon de Nathalie, ce pourrait être le titre. Nathalie, jeune femme qui se confie dans les pages de l'Éco-Républicain et vous raconte ce soir d'hiver où elle se retrouve seule, perdue, désespérée, sur le pont de Levallois, dans les Hauts-de-Seine. Nathalie vient d'enterrer son père. Alors elle pleure sur ce pont lorsqu'un inconnu s'approche, un grand maigre, avec les cheveux en bataille. Nathalie lui trouve un faux air d'Alain Souchon. Ultramoderne solitude, l'inconnu lui dit qu'elle ne devrait pas pleurer le soir de Noël. Tiens, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Spontanément, Nathalie répond que son studio est moche, qu'elle ne supporte plus ses murs gris. Eh ben, ça tombe bien, l'inconnu est peintre en bâtiment. Et il lui donne rendez-vous le lendemain avec ses pots et ses pinceaux. Les amis de Nathalie trouvent ça louche, la mettent en garde, attention. Mais le type a l'air bien et il commence à peindre tranquillement, sans dire un mot. Nathalie s'absente un instant, de quoi acheter à manger et remercier son bon samaritain. Mais quand elle revient à l'appartement, l'inconnu est déjà parti, sans rien demander. Sur les murs, c'est un festival de couleurs, impeccable. Il y a même un bouquet de fleurs laissé en cadeau derrière la porte. C'était il y a 22 ans. Nathalie vous dit qu'elle se souvient de tout et qu'elle n'a jamais eu de nouvelles de son peintre mystérieux au faux air d'Alain Souchon.
Car foule sentimentale, on a soif.